des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre, votre émission d'actualité judiciaire. Et aujourd'hui, bien évidemment, on va revenir sur le couvre-feu dont on a beaucoup parlé. Mais là, du côté de la gestion, comment gérer ça, tout ce mois-là qui va être plus difficile? On en parle avec Patrice Ouellet. Ensuite, trois autres gros dossiers de la semaine. Bien, il y a Maître Sharon Otis qui vient nous parler de la fillette de Laval. Là. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là? Encore un dossier où est-ce que la DPJ était avisée. Elle nous en parle. Ensuite, il y a Luc Laliberté. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Quand même très particulier ce qui se passe. Est-ce qu'on est à l'aube d'une guerre civile? Non, on va loin, mais on lui en parle. Ensuite, pour finir, on parle à René Villemur. Dans les hôpitaux, la crainte qu'il y ait un point de rupture, qu'il y ait trop de malades suite à l'augmentation de la COVID. Est-ce qu'on pourrait avoir à choisir qui va vivre, qui va mourir? On lui en parle. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
On va aller du côté de Washington. Bon, vous avez vu cette semaine ce qui s'est passé lorsqu'on a certifié le vote. Et suite à un discours du président Donald Trump, où est-ce qu'il dit « on va aller au Capitole », pas une bonne idée de dire ça. Il y a eu une sorte d'émeute, les gens sont rentrés dans le Capitole, ont saccagé. Il y a même Nancy Pelosi qui dit que sur Trump que c'est un homme dangereux. Est-ce qu'on est à la veille, à l'aube d'une guerre civile aux États-Unis? On en parle avec Luc Laliberté, analyste de politique américaine. Bonjour.
Oui, bonjour, François-David.
C'était quand même surréaliste ce qui s'est passé. Là. On a parlé souvent, on pensait au pire scénario. Et là, c'était pas loin ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut s'attendre à pire là, avec Trump?
Ah, écoute, tout d'abord, t'as utilisé les bons mots, je pense. Et autant le caractère est soudain. Hein, moi, j'étais, parce que c'est mon travail, je surveillais le décompte des voix du collège électoral qui s'effectuait à l'intérieur du Congrès. Donc, j'avais les yeux là-dessus sur quelque chose qui habituellement relève c'est une technicalité. On ne filme pas ça habituellement. Donc, déjà, c'était un peu anormal hier d'assister à ça. Puis j'étais en train de m'assoupir parce que c'est loin d'être particulièrement excitant ce débat-là. Et comme plein de gens, j'imagine, là j'ai vu déferler ces manifestants-là violents qui, en passant, sont entrés dans un édifice qui est au cœur de la capitale américaine. C'est un des centres de pouvoir sur la planète. Je m'étonne encore. Moi, j'ai hâte d'entendre quelqu'un m'expliquer ça intelligemment. Comment on a pu entrer là alors que c'est très, très, très sécuritaire? J'y suis déjà allé, moi, avec des groupes de touristes, avec des étudiants. C'est impossible d'accéder à ce bâtiment-là. Comment ont-ils fait, les manifestants, pour entrer hier avec autant d'aisance? Ça, c'est une autre question. Mais donc, autant on a été frappés par le geste soudain, autant, et c'est là où je disais que tu utilisais les bons termes, autant ça fait quoi, 3 ans, 4 ans qu'on dit que ce président-là parle d'abord et avant tout à sa base. Et dans cette base-là, il n'y a pas que ça. Mais il y a des individus très dangereux. Des individus qu'on connaît plus souvent sur les réseaux sociaux. Hein, on a parlé des associations comme QAnon, les suprémacistes blancs, des milices d'extrême droite. Mais ça semble un peu, c'est presque dans un monde virtuel habituellement. Hier, on les a vus entrer à l'intérieur du Capitole. Puis on les a vus, quand je dis qu'on est entré avec facilité, là, on est allé jusqu'à la Chambre des représentants. On est allé dans le bureau de Nancy Pelosi, qui est la speaker de la Chambre, et on est allé là où délibèrent habituellement les représentants. ce n'est absolument pas normal. Et le symbole était particulièrement fort.
Fort parce que on sent presque que c'est un ordre du chef et là, on s'exécute. Il pourrait demander n'importe quoi et on sent qu'il y a des gens qui feraient des choses qui sont pas imaginables.
Ben voilà, je pense que les gens ont pris conscience de ça hier, à quel point le danger il est bien réel. On ne parle pas de trucs en virtuel, mais on parle pas d'un monde parallèle. On a assisté quelques moments avant, là, le président Trump est sur le National Mall devant ses partisans. Il s'adresse à eux. Rudy Giuliani est là. D'ailleurs, il leur dit, on va vous mettre à l'épreuve du combat, trial by combat. C'est en anglais les termes qu'il a utilisés. Donc, on est en train, entre nous, on se dirait, on est en train de craquer ces gens-là. Et ça fait déjà 3-4 ans qu'on les craque. C'est pas la première fois que le président soit défend ou refuse de condamner de ces gens-là. Ou encore, il leur a déjà dit, tenez-vous prêts. Il y a un de ces groupes qui s'appelle les Proud Boys à qui il a dit, tenez-vous prêts. Ces gens-là n'attendent qu'un signal du président. Là. On est presque dans une secte religieuse quand on évoque ça. On se range à la vie puis aux ordres de Donald Trump. Donc, on n'est plus dans la réalité. Là. On œuvre dans un monde parallèle. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé dangereux. Il y a, par exemple, pendant ces incidents-là, avant et pendant les incidents, il y a un sénateur, le sénateur du Missouri, M. Hawley, il y a une photo qui a circulé qui, pour moi, résume très bien, trop bien le danger puis la récupération que les politiciens ont fait de ce danger-là, de ce risque-là qui est bien réel. Josh Hawley, il passe devant les manifestants de Donald Trump et il a le poing en l'air. Et tout de suite après, comme pour marquer la solidarité, mais un appel aussi au combat, c'est un des sénateurs qui, c'est un autre fait hallucinant, a remis en question la certification des votes de l'élection de Joe Biden. Donc, c'est quelqu'un qui, pour marquer le coup, pour se faire connaître, a voulu récupérer des partisans du président, qui leur a fait un appel du pied, un signe de la main, et ensuite, dans les minutes qui ont suivi, on a livré un assaut sur le Capitole. Et je choisis bien mes termes, là, je parle littéralement d'un assaut. Donc, si on craignait des dangers, des débordements aux États-Unis, souvent on nous a dit, nous, dans les médias, vous êtes un peu sensationnaliste, vous jouez avec les mots, vous allez grossir les nouvelles. Non, quand on connaît cette société-là, puis quand on surveillait les faits, j'étais là, moi, à Washington, quand il a été élu, puis qu'il faisait son discours d'investiture, Donald Trump, je les ai vus, les partisans racistes. J'en ai vu s'en prendre de mes étudiants qui étaient d'origine arabe.
Ah ouais.
On a vu des slogans racistes. On a vu et entendu des choses déplorables. C'est pas nouveau pour moi. Je m'attendais à ce que ça arrive à un moment donné. Puis finalement, hier, c'est arrivé. Malheureusement, on a eu raison. C'est triste de le dire, puis je le regrette.
C'est ce qui est frappant. Et là, j'accroche. Ben, pas j'accroche, mais je retiens ton mot. On s'attendait. C'est arrivé.
Ouais. C'était prévisible.
Oui. À quoi on s'attend? Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Est-ce qu'on peut penser à des scénarios d'horreur où est-ce que Trump ne quitte pas le pouvoir?
C'est-à-dire que ça ne peut pas arriver. Il va quitter le pouvoir de gré ou de force. Là, ce serait, on n'aurait jamais osé évoquer ça auparavant, mais les services de sécurité de la Maison-Blanche ont tout à fait le droit de le sortir le 20 janvier s'il n'est pas déjà sorti. Mm-hmm. D'ailleurs, le déménagement, il se prépare avant ça, parce qu'on a tout un ménage à faire à l'intérieur, là, pour faire place, bien sûr, au couple Biden, au président élu qui va entrer en fonction cette journée-là, puis à sa conjointe. Donc, la résidence va déjà être vidée avant ça. Donc, Donald Trump, il n'a pas le choix. Il doit sortir, il doit quitter la maison.
Mais ça se peut pas des scénarios comme on voit dans les films romains où est-ce que le chef va rallier une partie de l'armée, un autre chef qui va être de son bord ou qui vont essayer de créer une division dans le pays.
J'aime bien ta comparaison avec le monde romain parce que les Romains, les Américains se sont inspirés beaucoup des Romains au moment où on a fait naître la République. On a utilisé plein de symboles, de termes. L'architecture, d'ailleurs, à Washington rappelle un peu cette période-là. Mm-hmm. Ce qui nous rassure de ce côté-là, puis c'est un autre truc auquel on ne serait pas attendu, on a eu une déclaration officielle pendant la semaine d'une dizaine d'anciens gestionnaires ou responsables, les secrétaires à la guerre, les ceux qui gèrent le Pentagone. Et ils ont dit, l'armée n'a pas d'affaires là-dedans. L'armée ne fait pas de politique. L'armée n'est pas partisane. Donc, l'armée est là, elle, pour se soumettre au pouvoir politique, puis à l'exercice démocratique. Mm-hmm. Donc, grosso modo, c'est ne vous attendez pas, monsieur le Président, à ce que l'armée se range de votre côté.
Bonne nouvelle.
On craint parfois ce qu'on appelle, le terme n'est pas tout à fait correct, puis de moins en moins accepté, mais on craint parfois les républiques de bananes, là, où on se range du côté d'un dictateur. Mm-hmm. À mon avis, ça ne risque pas de se produire aux États-Unis. Ce qui m'inquiète cependant, c'est que le président peut s'en aller, mais le mal qui existe aux États-Unis reste en place. Les gens que Trump a surallié puis dont il a exploité la complicité depuis 4 ans, ces gens-là ne sont pas disparus. Trump part, mais le malaise reste entier.
OK. Mais les réactions qu'il y a eues, là, justement, à la certification des votes, est-ce que, parce que là, l'autre étape, c'est la sermentation du nouveau président, là. Peux-tu y avoir des mouvements de foule à cette étape-là aussi, ou?
C'est-à-dire que là, on l'a vu d'ailleurs depuis hier, hein, la mairesse, Mme Bowser, de Washington, D.C., de la capitale nationale, a imposé un couvre-feu. Là, on a augmenté la présence policière, on a fait appel à la garde nationale. Mm-hmm. Le 20 janvier, la capitale nationale, c'est probablement l'endroit le plus sécuritaire sur la planète. Est-ce qu'il peut y avoir ailleurs ou autour de Washington des manifestations? Ben écoute, je peux juste dire, on ne le sait pas, mais n'excluez pas, je parle à nos auditeurs, cette possibilité-là. C'est une des choses qu'on craint, c'est une des choses pour lesquelles on souhaite que les politiciens, la classe politique, mais les républicains au premier chef, sortent de plus en plus sur la place publique, devant les caméras, pour dire, d'abord pour faire un appel au calme, puis pour dire, ben écoutez, l'élection, là, elle est solide. C'est une élection qui est sûre, c'est une élection qui a été vérifiée.
Ben oui.
On a fait appel aux tribunaux, il n'y a pas de preuves d'aucune.
Mais le discours de. Est-ce qu'on pourrait. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'on pourrait bâillonner Trump? Parce que là, si. Là, on s'entend, il a fait un discours, c'était pas très intelligent la façon que c'était exprimé, ce qui a fait du grabule. Est-ce que lors de d'autres discours, on pourrait croire qu'il pourrait mettre le pays dans un état de conflit? Là, j'allais loin en parlant de guerre civile, mais est-ce que on va lui interdire de parler à un certain moment ou?
Ben, écoute, il y a deux possibilités, puis ça aussi, écoute, on pourra en faire une chronique ou un entretien complet. Soit on essaie de le destituer une deuxième fois, ça a été évoqué, mais c'est un processus qui est long, c'est un processus qui est lourd. Et à la Chambre des représentants, M. Trump a encore beaucoup de ses partisans, là, on l'a vu hier. Donc, on peut presque exclure la destitution, on peut le menacer, mais je pense pas qu'on ait le temps de faire ça d'ici au 20 janvier. Ce qui est l'alternative dont on discute le plus au moment où on se parle, François-David, c'est d'invoquer le 25e amendement. Le 25e amendement, c'est le vice-président des États-Unis avec, dans une première étape, l'essentiel du cabinet, grosso modo, les principaux conseillers du président, ses secrétaires, les ministres, qui écrivent au Congrès pour dire il n'est plus en état de servir.
Ouais.
Voilà. Maintenant, le président, il a le droit de critiquer ça, mais pendant la démarche, pour faire une histoire courte, le temps qu'on réfléchisse à ça puis qu'on procède au recours, on peut retirer le pouvoir temporairement au président Trump.
Ah.
Et c'est de plus en plus ce qu'on entend. Il y a même un républicain qui est de l'Illinois, M. Kissinger, qui a dit « Moi, je serais en faveur de ça ». Donc, c'est à surveiller d'ici à, j'ai envie de te dire, la semaine prochaine, début de la semaine prochaine. Est-ce qu'on pourrait pas démettre Donald Trump de ses fonctions à l'aide de cet outil-là qu'on appelle le 25e amendement?
Oui, effectivement. Mais à connaître le personnage, si c'est le cas, il va réussir à avoir des tribunes pour s'exprimer. Il va être enragé. Est-ce que ça pourrait être pire?
Ça, c'est clair. Puis c'est qu'il y a des réseaux qui ont véhiculé sa propagande, qui ont entretenu son message pendant très, très longtemps. Donc ça, on peut difficilement y faire quoi que ce soit ou le limiter. Mais on peut au moins l'empêcher de prendre des décisions. Parce qu'il reste 12 jours là au moment où on diffuse l'entretien.
Mm-hmm.
Il reste 12 jours. Et pendant ces 12 jours-là, il a encore entre les mains tous les pouvoirs d'un président. Que peut-il survenir? Ben, je ne sais pas si on peut imaginer pire que dans les derniers jours. Je ne l'espère pas.
Non.
Mais c'est pas impossible non plus.
OK. Bon, très éclairant encore une fois. Merci beaucoup, Luc.
Ça fait plaisir, François-David.
À la prochaine discussion. Bye-bye.
Des
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
Avec le couvre-feu qui va être effectif. Un couvre-feu, on le dit, on le dira jamais assez, c'est exceptionnel ce qui se passe dans notre société. Je pensais pas vraiment assister à ça. Mais ça a des impacts sur notre vie, effectivement, parce qu'après 8 heures, entre 8 heures et 5 heures, on peut plus sortir. Il faut se réorganiser, s'organiser même au travail, parce que on l'a dit, hein, si vous avez à sortir, c'est des raisons de travail, bien soyez sûr, l'idéal, c'est d'avoir un document de votre employeur ou tout justifier ça. Mais ça chamboule notre vie et on voulait en parler avec notre spécialiste de gestion haute performance, Patrice Ouellette, qui est avec nous. Bonjour.
Maître Bernier, quel début d'année avons-nous?
Ça commence dur. un couvre-feu. On se croirait en temps de guerre. C'est surréaliste de penser qu'on a ce genre de mesures-là au Québec en 2020.
Écoutez, il y a tout ce qu'il faut présentement, Maître Bernier, pour créer énormément d'anxiété chez les gens parce que l'ensemble... de la situation au niveau qu'on regarde aux États-Unis, au Canada, puis en plus, on vient de nous ajouter un couvre-feu. Il y a beaucoup d'insécurité dans l'air. Et c'est pour ça qu'un couvre-feu, écoutez, c'est comme vous le dites, ça doit faire des années, j'ai pas fait de recherche, ça doit faire des années qu'il n'y a pas eu de couvre-feu au Québec.
Oui, ben il y a eu une information qui était fausse qui disait qu'à la crise d'octobre en 1970, il y en avait eu un, mais il n'y en avait pas eu finalement. C'était des arrestations arbitraires. Dernier couvre-feu, ça serait à la grippe espagnole, là, 1918, okay. Dans ce bout-là, là, après la Première Guerre. Là. Ouais. Donc c'est. Ah, puis il y avait eu aussi des couvre-feux en lien avec des. Il y avait des peurs qu'il y a des bombardements, je pense, avec la Première Guerre. Donc, les gens devaient rentrer, fermer les lumières pour ne pas être une cible. Fait que oui, ouais. C'est du jamais vu, là, on peut le dire, même.
Maître Bernier, juste avant de rentrer dans le couvre-feu, faut pas perdre de vue que le prolongement des mesures de confinement va aussi avoir des impacts sur certaines usines, certaines entreprises. Certaines entreprises qui vont devoir mettre tous les travailleurs au chômage aussi. Donc, je dirais qu'avant de tomber dans la logistique du couvre-feu, le premier conseil que je donnerai aux gens, c'est de se refaire rapidement un petit plan de match financier. C'est quoi le budget? On a-tu besoin de couper à certains endroits? Parce que le premier stress qu'on vit souvent dans les ménages, c'est le stress financier.
L'incertitude, c'est ça. Et personnel... Mais aussi, comme tu le dis, avec les entreprises, ça doit être l'incertitude d'eux autres. Ils se font dire de mois en mois que c'est toujours renouvelé, la fermeture, ça doit être l'enfer à gérer, à supporter. Là.
Disons qu'on a quand même un an d'expérience derrière nous, 9 mois d'expérience maintenant. Fait que on a appris à travailler dans l'adaptation constante, dans l'agilité, mais n'en demeure pas moins. C'est un dur coup en début d'année pour certaines entreprises qui font de l'exportation aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Écoutez, il y a des entreprises qui vont être vraiment, vraiment malmenées par ce prolongement-là. Donc, c'est important de se faire ce premier bilan, si on peut dire, l'état de la situation. Est-ce qu'on a besoin de se refaire un budget rapidement familial? Est-ce qu'on a besoin de faire des coupures pour pas avoir, faire baisser un peu la pression de cette anxiété-là? La deuxième chose, ben vous l'avez mentionné, Maître Bernier, c'est clair qu'avec un couvre-feu maintenant, ça a des impacts. Ça va peut-être avoir des impacts sur notre façon de s'organiser, dans nos déplacements. Donc, il faut régler ça rapidement aussi. Laissez pas traîner ça. Attendez pas que les situations arrivent. Ça vous crée un stress supplémentaire.
Ben oui. Puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Il y a un confinement, mais on a vu qu'en France, c'est arrivé. C'est que là, il y a des... Je parle, mettons, de l'épicerie. L'épicerie, on y va, on fait son épicerie. Mais là, ça va créer une sorte d'achalandage. Je ne sais pas s'il n'y a pas un danger de, de, de faire indirectement. Dans le fond, souvent, on trouve notre destinée sur le chemin pour l'éviter, dans le sens qu'on veut éviter les rassemblements, mais si on ferme à 7h30, tout le monde risque de se ramasser à fermeture ou proche pour faire se garrocher à l'épicerie. Là. Ça peut...
J'ai un bon conseil là-dessus, Maître Bernier, à donner aux gens. Si vous allez sur Google Maps, pour reprendre le terme en anglais, là, puis vous mettez le nom du commerce, exemple, vous mettez votre épicerie du coin, puis vous le faites dans Google Maps, sur le coin gauche, vous allez avoir l'achalandage du commerce toutes les heures de la journée.
Ah ouais, oh,
ouais.
Bon truc.
Et vous allez voir, c'est des petites colonnes bleues souvent qui apparaissent, et vous allez voir, ça fait comme une parabole, comme une cloche.
OK.
Et ça va vous dire, dans le fond, l'impact du couvre-feu, qu'est-ce que ça va avoir sur ces heures supplémentaires, exemple, 8 heures à 9 heures. Qu'est-ce qu'on perd? Parce que dans la réalité, il ne faut pas oublier, on perd une heure, grosso modo.
Oui, c'est vrai que c'est pas...
Le couvre-feu de 8 heures à 9 heures, et je crois qu'il laisse les pharmacies ouvertes un peu plus longtemps.
Oui, c'est ça. Sauf que certaines épiceries fermaient à 11 heures. Donc,
exact. Mais vous irez voir, je pense que vous allez voir que c'est très, très marginal, l'achalandage en soirée. Mm-hmm. Reste à voir ceux qui allaient en soirée, à quel moment qu'ils vont se déplacer. Mais selon moi, c'est pas un enjeu comme tel.
Okay.
Le fait de fermer les commerces un peu plus tôt. Moi, je pense qu'il y a des enjeux au niveau de l'organisation, au niveau du travail, au niveau des activités qui sont toujours en place. Est-ce qu'il y a des façons de s'organiser qu'il faut prévoir tout de suite?
Les désorganisés vont être plus malheureux. Ceux qui sont organisés, souvent, ça va bien. Mais les dernières minutes, ils vont trouver ça plus dur dans le prochain mois.
Là. Oui, puis ça peut faire vivre des situations, disons, pas évidentes où l'anxiété monte élevée, puis vous avez un enfant qui est sur la route, puis il est 8h30, puis vous vous demandez, vous n'êtes pas capable de le rejoindre. On va vivre toutes sortes de choses. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, organisez-vous tout de suite. Regardez vos horaires, vos agendas. Qu'est-ce que j'ai comme activité dont le couvre-feu va avoir un impact et comment je vais le gérer? Attendez pas d'arriver à ce moment-là.
Mm-hmm. Il faut prendre des notes. Ensuite, comment on peut... est-ce qu'il y a des côtés positifs à ce couvre-feu-là?
Ben écoutez, comme je le dis toujours, Maître Bernier, c'est comme diminuer son anxiété, c'est les finances, c'est la logistique. Après ça, c'est quoi l'opportunité? Quelle est l'opportunité dans ce qu'on me présente? Si je travaille davantage de la maison, ce qui va être le cas à nouveau pour plusieurs personnes, je viens de gagner du temps là, si je travaille à la maison. J'ai des déplacements qui ne font plus partie de ma vie. Qu'est-ce que je fais avec ce temps-là? Et vous savez, les gens qui carburent dans la haute performance ou les gens qui se distinguent, c'est des gens qui ont une relation différente avec le temps. C'est des gens qui réussissent à faire, si vous voulez, à canaliser ce temps-là supplémentaire et d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que je fais avec ce temps-là supplémentaire? Est-ce que je ne vais pas développer un de mes talents? Est-ce que je ne vais pas développer une habilité que j'ai besoin d'avoir dans la nouvelle normalité? Dans ce qui s'en vient en 2021, quel talent je devrais développer? Et là, c'est là que c'est important d'utiliser ce temps-là, non pas pour perdre son temps, mais bien pour augmenter sa valeur, pour avoir beaucoup plus de valeur dans cette nouvelle économie-là. Parce qu'il va émerger une nouvelle économie, tout ça, c'est clair.
Mm-hmm.
Il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont revenir à la normale, ça, c'est clair. Mais il y a aussi des choses qui vont changer fondamentalement.
Ouais. Est-ce que non, effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent. J'ai hâte, c'est peut-être pas le bon mot. Je suis curieux de voir comment les gens aussi vont respecter la consigne du couvre-feu. J'ai l'impression que ça va fonctionner là, parce que tu parlais de prévoir le financier. Là, je veux dire, c'est pas des petites contraventions qui vont être données là, si on est pris à sortir. Il n'y a pas trop d'intérêt là, à enfreindre cette règle-là. Là.
Puis écoutez, je connais pas beaucoup de gens qui avaient comme plan de match dans le mois de janvier de se faire une petite rencontre à 10 heures le soir puis se faire un feu dehors en janvier.
Mm-hmm. Ouais.
Donc, l'impact sur la vie sociale est très, très minime. Donc, je pense pas que ça va être un gros enjeu. C'est davantage, je dirais, c'est l'ensemble de l'œuvre. Les gens sont tannés, les gens sont stressés, les gens sont à bout de tout ça. Donc, c'est comme si on nous prolonge ça encore. Hein? Mm-hmm. Il y a un an, écoutez, dans les nouvelles, on entendait à l'occasion parler qu'il y avait un virus en Chine. C'était ça notre réalité il y a un an.
Ouais.
Le virus n'était pas ici. On en parlait un peu, puis on écoutait cette nouvelle-là de loin parce que ça ne nous touchait pas vraiment. En 12 mois, notre environnement a été complètement chamboulé, le transformé.
Ouais.
Faut pas l'oublier.
Bon, on pensait pas que ça allait prendre cette ampleur-là, puis on prenait comme exemple, je pense que c'est le H1N1, où est-ce qu'il y avait eu une vaccination, on pensait que ça allait prendre de l'ampleur, ça n'avait pas tant pris, donc c'est certain qu'on pensait pas se rendre là, puis je suis pas sûr qu'au début de la pandémie, on pensait, parce qu'on en a parlé beaucoup ensemble de la gestion du gouvernement. Là, quand même, on se cachera pas qu'en matière de gestion, si on fait un comparable, on a sorti l'artillerie lourde, là.
Absolument. On a sorti l'artillerie lourde. Puis quand je regarde aujourd'hui l'adaptation des commerces qui s'y fait vraiment de façon fulgurante, on peut faire son épicerie en ligne et puis on n'a pas besoin d'attendre. Même il y a beaucoup de personnes à qui je parle qui m'ont dit qu'elles allaient continuer à faire ça, mm-hmm, parce que c'est beaucoup plus efficace. Il y a beaucoup de commerces qu'on peut aller chercher des biens. Donc, on est beaucoup mieux préparé. Il faut pas oublier ça, là. On est beaucoup mieux préparé qu'on l'était avant. C'est davantage la longueur de ce confinement-là,
ouais,
que l'adaptation à ce confinement-là. Puis, le couvre-feu dans la vraie vie, ça aurait été au printemps, j'aurais dit, OK, le gouvernement va avoir tout un problème.
Bombe.
Il vient de se créer un problème. Mais présentement, en janvier, 4 semaines.
C'est vrai. Timing is everything, comme on dit en bon anglais. C'est vrai que, bon, dans les points positifs, c'est quand même un bon moment. On est habitué. On veut mettre, on veut que ça finisse. Donc, on invite nos auditeurs à le respecter. Mais de toute manière, c'est tellement pas encourageant. Je pense que dans toutes les mesures qui ont été mises en place, ça sera la plus efficace parce qu'il n'y a pas seulement de rouler sur la route. Et avec une possibilité d'être arrêté, ça décourage, ça va en décourager beaucoup. Merci beaucoup, Patrice Ouellette, de nous avoir parlé. On se reparlera, on va voir comment ça va. On se reparle.
Merci, M. Bernier.
Bye-bye.
D'accord, au revoir.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Vous avez vu le drame de la fillette de 7 ans à Laval qui a été retrouvée dans un état lamentable. Donc, la jeune victime qui aurait été trouvée dans un état où est-ce que son corps était couvert en majorité de brûlures dues à de l'eau bouillante, des ecchymoses, un bras cassé. Et bon, ce qui nous choque toujours dans ces dossiers-là, encore une fois, c'est qu'il semblerait qu'il y avait déjà eu une dénonciation à la DPJ. Dans ce cas-là, c'est plus nébuleux parce que ça avait été fait supposément, peut-être, on n'a pas toutes les... c'est pas clair encore, par les parents. On voit qu'il y a eu décès, il n'y a pas d'arrestation de fait dans ce dossier-là, encore du moins. Donc, beaucoup de choses à comprendre, mais on en parle avec Sharon Otis, que vous connaissez tous, qui a traité malheureusement de tous les dossiers, que ce soit la fillette martyre de Granby, la petite Rosalie, l'enquête là, qui est faite là, sur la DPJ, et dans ce cas-là, une autre enquête qui est faite par la Commission des droits de la personne. Bonjour, Maître Otis.
Oui, bon matin, M. Bernier.
Bon matin. Est-ce que, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui se passe là, dans ce dossier-là?
Bien, dans ce dossier-là, pour l'instant, il ne se passe plus grand-chose parce que à l'heure actuelle, on est en attente des raisons, c'est-à-dire du rapport du coroner, de l'autopsie, de l'autopsie, qui sera effectuée là, sur la jeune fille. Donc, mais je suis contente parce que la Commission des droits de la personne est entrée, la Commission des droits de la jeunesse est entré d'emblée dans ce dossier-là et n'a pas attendu, vous comprenez, on n'a pas fait preuve de laxisme ou on est intervenu. Je pense que là, c'est ça que à chaque fois qu'on se parle, mais dernier, on parle de la DPJ et je regardais les nouvelles quand ça a sorti, c'était une dernière minute, là, pas ce que je ne nommerai pas, mais soit le temps passant à FM. Donc, il y a une nouvelle de dernière minute qui sort et lorsque j'entends ce qu'il dit, regardez, au départ, on n'a pas parlé de DPJ et je me suis dit dans la tête, regarde bien ça, c'est certain, d'après moi, la DPJ doit être au dossier. Et oui, cependant, là, qui est reporté, hein, parce que on n'a pas de confirmation de ça, parce que la DPJ, à l'heure actuelle, n'est pas sortie devant les médias pour venir dire dans le... C'est sûr qu'ils ne peuvent pas, parce que, bien évidemment, si c'est un enfant mineur, ils ne peuvent pas dire grand-chose là, sur le dossier, mais apparemment, ce serait les parents qui auraient appelé pour un enfant qui était qui avait des troubles de comportement. Donc, ce qu'on voit... On voit généralement le contraire, vous comprenez? Donc, mais encore là, on n'a pas de preuve de ça. Là.
Mais est-ce qu'on voit ça, des parents qui appellent la DPJ pour leur propre enfant?
C'est rare, mais je dirais que oui. Surtout lorsque les enfants deviennent de plus en plus vieux et il y a une perte de contrôle où il y a une déresponsabilisation et même des fois, l'enfant cesse d'aller à l'école. Vous savez que selon la loi sur l'instruction publique, un enfant doit être sur les bancs d'école entre 6 à 16 ans. Donc, c'est un motif de compromission. Donc, si l'enfant, votre ado de 14 ans décide de cesser ses études, ben c'est certain qu'un parent peut appeler et puis la DPJ en disant « Regardez, voici, là, tout moi, cette décision-là ne mène pas de moi. Qu'est-ce que je fais? » Et peut-être que la DPJ va intervenir. Des fois, il faudrait qu'elle intervienne parce que dans le cas de la fillette morte à Laval, il y avait eu un signalement qui avait été fait, ce qui est rapporté. Ça serait à l'automne. Donc, encore une fois, on dirait que c'est redondant nos termes, Mike Berlier.
Nos chroniques, oui.
Nos chroniques sont redondantes, malheureusement, et je trouve ça très triste.
Bien, c'est ce qui nous choquait la dernière fois, c'est que pour nos auditeurs, on rappelle, on disait, il y a des enquêtes, il y a la commission Laurent. On espère du résultat concret sur le terrain, mais depuis que c'est commencé, depuis la petite Rosalie qui avait été trouvée dans une poubelle, il y a beaucoup de cas. Comme vous l'avez bien dit en début d'entrevue, on se dit, on apprend toujours que la DPJ était déjà au dossier, là.
Oui, sauf que je comprends le rapport de la commission Laurent. Je comprends tout ça, si tu vas s'en venir, mais le temps de mettre ça en œuvre, les nouvelles recommandations, s'il y a mise en œuvre, bien évidemment. Donc, je me dis, là, il faut que quelqu'un embraye. C'est pas plus clair que ça. Ouais. Il faut que quelqu'un ouvre la machine, là, puis dise, on a, d'ailleurs, la DPJ de l'esprit est mise sous tutelle. C'est pas pour rien, là. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose. Ça fait un an qu'il y a cas sur cas répertorié. Et moi, je trouve ça terrible. Et moi, ce qui m'a vraiment touchée dans ce cas-là, c'est toujours touchant, mais on mentionnait que les ambulanciers paramédicaux et les policiers qui sont intervenus pour découvrir le corps doivent, en tout cas, ceux qui vivent des chocs psychologiques, sont pris en charge par le programme d'aide aux employés. Vous comprenez que ça devait être chocatif, vous comprenez?
Oui.
De voir cet enfant-là apparemment brûlé à 80% du corps quant au reste des ecchymoses. Donc, je me dis, pourquoi on n'est pas intervenu plus rapidement si le signalement a été fait en septembre? On est rendu en janvier, donc...
Ça peut-tu arriver qu'à 7 ans, on spécule, évidemment, il nous manque beaucoup d'informations, mais qu'un enfant puisse se causer ce genre de lésion-là seul, je veux dire. C'est quand même particulier qu'il n'y a pas d'arrestation dans le dossier encore.
Oui, mais à mon sens, à moi, à l'heure actuelle, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y était quand même 6 habitants, je pense, dans la résidence. Donc, c'est la faute de qui, à qui appartient. Vous comprenez que quand les policiers vont procéder à des arrestations et porter des accusations par le DPCP, il faut qu'ils soient sûrs de qui a fait quoi ou tout ça. Ça ne veut pas dire qu'à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas d'arrestation, qu'il n'y en aura pas. Il ne faut pas spéculer ça. Mm-hmm. Et je pense que ça me surprendrait vraiment, mais il n'y a rien d'impossible dans la vie, mais qu'une fillette de 7 ans se
mutile.
Donne à ce point-là sur 80% de son corps et avec des ecchymoses, avec tout ça. Donc, regardez, moi, bien évidemment, on ne sait pas encore les résultats de l'autopsie, mais on peut penser que c'est très, en tout cas, ça serait surprenant. Là.
Ça serait de la maltraitance, là, je veux dire.
Je peux pas le présumer. À l'heure actuelle, il n'y a rien de sorti, sauf que ça serait une mort atroce qu'une enfant de 7 ans se donnerait. Ça serait terrible. Là. Je comprends que peut-être un comportement qui a été mentionné, c'est qu'un comportement que la petite était peut-être troublée ou quoi que ce soit. Mais moi, je...
Ben, si c'était ébouillanté, ça peut être un accident. Je veux dire, c'est
ben, à 80% du corps.
Ben, 80% plus le bras cassé, plus des ecchymoses. Là, on cherchera pas loin. C'est pas un enfant de 7 ans qui peut se faire ça à lui-même. Là.
Ben, il peut se le faire. Il peut se casser un bras en tombant dans l'escalier. Mais de là, se brûler à 80% du corps, en mai dernier. Et la scène était tellement troublante que ceux qui sont arrivés sur les lieux doivent ou peuvent aller consulter. Là. Donc, c'est des gens qui sont habitués d'arriver dans des scènes de crime. Là.
Ben oui, ils ont l'expérience. Ah, c'est sûr que c'est surtout un parent qui assiste à ça. Ça met dans un autre état, ça chamboule, mais toujours cette colère-là qui revient de dire, coudonc, ça arrive encore, c'est des manques de ressources, qu'est-ce qui se passe avec des TPJ, mais j'imagine, est-ce que le bateau est trop gros, là, ça tourne pas, là, je veux dire, est-ce qu'il y a lieu, on en a déjà parlé, mais il y a beau avoir des commissions, ça semble pas avoir de résultats concrets. Faut-tu faire page blanche puis tout recommencer? Parce que c'est peut-être pas efficace.
La roue entière est inefficace, je pense. Je ne parle pas au niveau de lorsque c'est judicialisé et que là, le contentieux embarque et la cour, etc. Mais encore là, c'est sûr que des fois, il y a des décisions pour lesquelles un particulier peut trouver injuste. Ceci étant dit, je pense que il y a des lacunes, il y a un manque de suivi, il y a sûrement un manque d'effectifs, mais il y a aussi l'expérience, celle que je vous l'ai déjà dit, et que je redis. Je peux pas dire autre chose, moi, je le constate à la cour. Je les vois, les intervenants, des travailleurs sociaux qui accompagnent l'avocat de la DPJ ou l'avocat de la DPJ et qui, elle ou lui, ne peut ou pas d'expérience de vie. Je m'excuse, mais tu sais, on apprend des choses dans les livres, mais de le mettre en application et d'être efficace, être rigoureux il faut avoir un certain bagage. Il faut avoir une certaine expérience de vie. Et je pense que c'est là où est-ce que des fois, le bas blesse. Comme je vous ai dit la dernière fois, je pense qu'une des solutions, c'est de mettre une madame ou un monsieur d'expérience, là, qui lui, là, il va être le dispatch, comme on dit en bon québécois, puis qu'il va en prendre les plaintes, là, parce que, tu sais, il y en a vu d'autres, là, puis après ça, qui dirige aux intervenants. Mais
une sorte de triage, là, plus efficace, là.
Oui, un triage efficace. Est-ce qu'on retient des plaintes qui semblent mal fondées ou abusives ou mesquines ou dans le but de nuire? Est-ce que, tu sais, bon, c'est quelqu'un qui en a vu d'autres, là. Mm-hmm. Et par la suite, référer, mais là, c'est pas ce qui se passe. Et je suis pas encore surprise. Je suis terriblement déçue parce que je me dis combien de décès il faut encore pour que je comprends le rapport s'en vient. Comprends tout ça, mais le temps de le mettre en branle, tout ça.
Ouais.
À un moment donné, là, il faut agir parce que c'est des enfants.
Ben oui.
C'est des enfants de bas âge. sur lequel on,
ouais.
on voit.
Puis le rapport, faut, c'est bien beau le faire, mais il ne faut pas qu'il soit tabletté, il faut qu'il soit appliqué, il faut qu'il y ait des changements. En tout cas, on s'attend à des changements majeurs dans ce domaine-là. C'est tout le temps qu'on avait.
C'était sous réserve d'avoir le budget nécessaire. Hein?
Ouais.
Donc,
là, si la société n'est pas capable de mettre ses enfants... Tu sais, je veux dire, tu juges une société à comment qui traite ses enfants, comment qu'elle traite ses aînés, puis des fois, ben ça fait peur.
On passe à côté.
Ouais. Merci beaucoup, Maître Sharon Otis. On se reparle pour un autre dossier. Bye-bye.
Ça fait plaisir, Maître Derrien. Bonne journée, au revoir.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
Les hôpitaux sont sous pression. On n'a pas le choix. On peut sembler alarmiste, mais il y aura peut-être un point de rupture. On ne souhaite pas ça, mais avec le retour là, des voyages, le retour des fêtes, on a vu ça dans d'autres pays, en Italie, où est-ce qu'on s'est retrouvé devant des situations à savoir qui on soignait et qui on ne soignait pas. Pour être plus drastique, ben, on se disait qui vit, qui meurt. Et ça peut être problématique. C'est vraiment un sujet qui nous interpelle. Et on voulait savoir du côté, justement, éthique pour un médecin d'avoir à choisir. Parce qu'on sait, il y a le serment d'Hippocrate, le médecin se doit de sauver son patient. Est-ce que c'est même possible d'imaginer qu'il y aurait à choisir? Et on en parle avec un éthicien connu, René Villemur, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. On a tout qu'un sujet, mais comment tu vois ça, cet aspect-là d'un médecin qui pourrait avoir à choisir? Est-ce que ça peut être possible?
Ben, premièrement, c'est une question déchirante. Première des choses, c'est il y a personne qui peut prendre ça de gaieté de cœur. Les gens disent souvent, les médecins ont été formés pour ça. Non, les médecins ont été formés pour sauver la vie. Mm-hmm. Pour ne pas nuire et non pas pour avoir à choisir qui vit, qui meurt. Ça, c'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que ça va être intéressant de le regarder du point de vue de l'éthique sociale. Parce que le médecin, s'il a à choisir aujourd'hui, c'est parce que d'autres personnes avant, en amont, la population notamment, a choisi de ne pas se plier aux consignes. Mm-hmm. C'est la non-observance de ces règles-là, le manque de solidarité, je dirais, de la population, qui fait qu'en bout de ligne, le médecin pourrait être appelé à faire ça. Fait que c'est certain que comme éthicien, moi, la première chose que je vois, c'est tentons de faire en sorte que le médecin n'ait pas à choisir. Première des choses. Donc, observons les consignes, tentons d'être solidaires et puis de comprendre que une petite délinquance, c'est quand même quelque chose qui peut avoir de grandes conséquences. Parce que c'est la même ligne. Hein? La non-observance mène à quelqu'un à l'hôpital qui mène à l'engorgement.
Okay.
Donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, j'ai tendance à donner un avis à la population. Puis plus tard, on va peut-être faire avec le médecin, mais on va commencer par demander aux gens d'être solidaires.
Ben effectivement. Et c'est de voir plus loin que le bout de son nez, si on le dit bien. Mais on est quand même rendu à y penser parce que là, il y a eu une mise à jour du protocole national de priorisation pour l'accès aux soins intensifs pour les adultes en contexte extrême pandémique. Et là, on parle ici d'un critère de chance de survie, d'expérience de vie significative devant nous. Donc, à dire, de devoir dire, ben cette personne, on peut penser peut-être que c'est l'âge qui est impliqué, mais cette personne-là est jeune, a une expectative de vie plus grande, et donc on devrait la sauver avant la personne qui est plus âgée, qui a moins de vie devant. Est-ce que, éthiquement parlant, ça peut tenir la route, ce genre de pensée-là?
Moi, j'ai vu la publication du guide, j'en ai pris connaissance, mais du point de vue de l'éthicien que je suis, je trouve ça, je suis pas d'accord. Première des choses. Je peux comprendre.
Juridique, moi, je suis pas d'accord non plus sur le côté juridique.
Non, ben c'est ça. Il y a plusieurs points de vue parce que ici, c'est sûr que c'est facile de donner l'exemple. Il y a un jeune de 24 ans qui a la vie devant lui, puis un monsieur de 78 ans qui, est déjà souffrant. Là, c'est facile de dire que le calcul utilitariste, là, ça serait de préserver le jeune. Mais en même temps, moi, du point de vue éthique, une vie, c'est une vie. Et j'ai de la difficulté à choisir entre une ou l'autre. Et puis, si on veut amener ça par l'absurde, on sait pas ce qui va arriver du jeune de 24, si tu es un terroriste que tu es, et l'autre, est-ce que c'était Einstein?
Ouais.
C'est pas un raisonnement que je peux tenir, ça. Mm-hmm. On doit préserver la vie, c'est ce que le médecin doit faire. Et puis, encore là, c'est très rare qu'on arrive à dire c'est un ou l'autre. Ouais. Mais le cas échéant, le médecin va devoir utiliser sa science et vivre avec sa conscience parce que, imaginez-vous le poids que ça doit représenter pour le médecin d'avoir à vivre avec ce choix-là.
Ouais.
C'est pour ça qu'on doit, comme population, en amont toujours, les aider afin que ça ne soit pas comme ça. Qu'on arrête de penser à soi pour un instant parce que les gens qui ne se plient pas aux consignes actuellement, ils le font pour une raison, eux-mêmes.
Ouais.
C'est simple. C'est leur bénéfice personnel. Les autres, c'est pas grave. Donc, je pense qu'il est temps de penser aux autres. Moi, j'ai toujours dit en éthique, c'est un peu moins de soi, un peu plus des autres, ben il est le temps de l'appliquer là.
Parce que c'est un concept d'éthique de penser aux autres. Si on prend le concept, là, on peut pas être éthique si on pense qu'à soi.
Ben non, c'est l'éthique, c'est le contraire de l'égoïsme. C'est vivre ensemble, c'est cohabiter les uns les autres. C'est penser aux autres au moins autant qu'à soi, puis idéalement un peu plus que soi. Mais c'est dans une société individuelle où parfois on voit pas le lien entre, mettons, le fait que je vais voir mes amis et quelqu'un qui meurt à l'autre bout parce que c'est pas un lien, c'est un lien causal, là.
Mm-hmm.
C'est un lien qui arrive au fil du temps. Mais je pense qu'il faut sensibiliser les gens à ce que nos actions ont des conséquences sur d'autres.
Ouais.
Et l'éthique va être justement de dire je vais minimiser ou atténuer ou idéalement ne pas entraîner de conséquences sur les autres.
Mm-hmm.
Parce que c'est beau de dire là, je vais aller chez mes amis, mais ça concerne pas que la personne qui fait ce choix-là. Ça concerne d'autres mondes.
Je comprends. Et dans cette perspective-là d'extrême, là, on espère, éthiquement parlant, de choisir, on s'entend qu'on a un problème avec ça. Est-ce que ça deviendrait pas plutôt de dire, bon, s'il y a un embourbement, c'est un peu le premier arrivé, premier servi, dans le sens que un médecin va dire, ben moi j'ai un patient, c'est pas vrai que je vais l'enlever des soins intensifs pour en rentrer un autre. Ça revient pas à, on va peut-être être obligé justement d'y aller sur le premier, donc que le médecin entre les mains qui doit sauver.
C'est certain que quand un médecin se dit, par exemple, j'ai un patient qui est sur la table d'opération pour un cancer du poumon et j'en ai un COVID à côté, on peut pas sortir un pour traiter l'autre, là, quelque part. Donc, c'est drôle parce que le guide des pratiques médicales disait qu'en bout de ligne, c'est quasiment comme tirer au sort, là.
Ouais.
Mais j'aime pas l'expression du tout, parce qu'on tire pas une vie au sort. Mmh. Mais il reste qu'en bout de ligne, je pense que le médecin va devoir encore là, faire avec ses connaissances médicales en tentant de faire le mieux. Toujours le non-non-chéré du système médical, ne pas nuire. Là.
Ouais.
Il faut que lui vive avec ça. Mais c'est honnêtement un lourd choix qu'on envoie chez le médecin. Hein. On leur demande beaucoup. Hein. On leur demande d'être présent, d'être là, mois après mois, et en plus de choisir qui vit et qui meurt.
Ouais.
Maintenant, je ne voudrais pas être médecin dans les circonstances.
Non, effectivement, et on pourrait peut-être assister à une sorte de refus, parce qu'il pourrait y avoir une directive gouvernementale ou administrative, mais le médecin est un professionnel, et on en a parlé du serment d'Hippocrate, il pourrait dire non, moi je refuse d'appliquer cette mesure-là.
Absolument. Puis, il y a bien des façons de refuser sans que ça paraisse trop aussi, d'ailleurs.
Ouais.
On l'a vu sur l'aide médicale à mourir, là.
Mm-hmm.
Mais il reste qu'encore là, je trouve que c'est irresponsable de la part soit des citoyens, même de l'État, qui, à la limite, se lave les mains et laisse le médecin trier avec le problème. Le médecin, il est en bout de course, là. C'est près de la ligne d'arrivée. Mais idéalement, il faut qu'on donne des conditions gagnantes. Et puis, je pense que la population québécoise est capable de montrer sa solidarité. Mm-hmm. Et je pense que là, c'est une excellente façon de la montrer.
C'est le temps, comme on dit. Là, je ne veux pas te mettre dans une mauvaise position, mais il faut que je t'entende là-dessus. Certains disent, ceux qui ont eu des contraventions, les récalcitrants, ceux qui ont couru après, ils ont été en voyage, bon, ces gens-là, si ça advenait qu'on doit choisir des gens qui vivent, qui mourraient, ben ça serait normal de que ces gens-là récalcitrants n'aient pas le même service. Est-ce que c'est éthiquement possible, ça?
Non, je pense que légalement, ça ne l'est pas.
Non.
Mais je trouve ça horrible parce que, regardez bien, quelqu'un a manqué de jugement, d'accord? Puis c'est ce que c'est, là. Mais je suis content qu'on vit dans un pays où on n'exécute pas les gens qui manquent de jugement.
C'est bien dit.
Ouais. Ça serait dommage, là.
Ouais. Ça serait un petit peu loin, là.
Mais c'est ça. On les félicitera pas pour autant, là. Mais il reste que manquer de jugement, là, tu crèves donc. Il me semble que le remède n'est pas meilleur que la maladie rendue là.
Ouais, non, c'est certain. Et pour finir avec ça, est-ce que côté éthique, on a vu des politiciens aller en voyage, on a vu, est-ce que l'exemple pour ce qui est de ces figures-là publiques est nécessaire? Là, j'imagine que quand on voit un politicien perdre sa job parce qu'il est allé dans le sud, est-ce que c'est normal?
Ben, il y a une chose, c'est que d'une part, il y avait une directive sur les déplacements non essentiels.
Mm-hmm.
Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on ait à définir essentiel, mais des vacances dans le sud, ça ne l'est pas, ça c'est clair.
Ouais.
Deuxièmement, la personne qui est un politicien, on peut être ministre ou député, là, mais c'est quand même des gens qui constituent le gouvernement et à titre d'élu, ils ont un devoir d'exemplarité. C'est exigeant. Mais ils ont un devoir d'exemplarité. C'est certain qu'un ministre qui fait partie d'un gouvernement qui impose des règles que lui-même transgresse, honnêtement, la sanction pourrait être solide en ce qui me concerne sur le plan éthique.
Okay.
Le député, il faut voir un peu, mais il reste que on doit servir d'exemple. Et si la personne qui l'ordonne, le gouvernement, lui-même ne suit pas ses propres directives, ben, je ne verrais pas pourquoi quelqu'un paierait l'amende de 1546 $ pour s'être rassemblé.
Mm-hmm. Non, c'est certain que s'il n'y a pas cet exemple-là, ça fonctionne mal.
La confiance qui est minée, là.
Ouais. Non, c'est surtout quand quelqu'un est dans le parti qui donne les directives, on comprend bien ce point-là. Donc, les sanctions peuvent être quand même sévères si l'exemple n'est pas donné. Très intéressant. Merci beaucoup, René Villemur, d'avoir parlé de ça.
C'est toujours un plaisir.
On va suivre ça avec attention. Bonne fin de journée.